Donc, Romains chapitre 12, et nous allons lire les versets 17 à 21. Romains chapitre 12, et les versets 17 à 21. Donc, ce sont les instructions de Paul, poussées par l'Esprit de Dieu, pour les enfants de Dieu. Romains 12, verset 17. Il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, et autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Le titre que nous avons donné à cette prédication, c'est « La paix, mais à quel prix ?» Mon épouse a passé son enfance dans un village de l'est de l'État de Washington. Et les anciens racontent que lorsque les premiers blancs sont arrivés dans la région, et bien sûr, ils ont rencontré les Indiens d'Amérique et ont voulu faire la paix avec eux. Et dans ce cas précis, ce qu'ils faisaient pour garantir la paix entre les deux communautés, c'est que, à un moment précis, chaque communauté offrait un nourrisson à l'autre communauté. Donc, et ce nourrisson restait dans l'autre communauté. Et c'est ainsi que, jusqu'à pendant quelques années, quand l'enfant devenait à un certain âge, eh bien, le ramenait, le rendait à la communauté d'origine et donnait un autre nourrisson. Et donc, ce nourrisson, c'est en fait, c'est le nourrisson de la paix. C'était le prix de la paix. La paix, ils l'ont eue, mais il y a eu un prix. Et il fallait que quelqu'un offre son enfant. Et vous savez, ici, dans ce passage, la pensée principale, eh bien, c'est celle que nous trouvons au verset 18. Il dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ça, c'est le principe de base. Il dit, autant que possible, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous allez rechercher à être en paix avec tous les hommes. Ceux qui sont dans la foi et ceux qui sont en dehors de la foi. Mais vous savez, c'est extraordinaire, c'est que les communautés qui se saluent ou qui saluent en disant « shalom » ou « salem », et ils soient toujours en guerre. Ça, c'est caractéristique de l'être humain. Mais pour l'enfant de Dieu, il n'a pas besoin de dire « paix soit sur toi », mais c'est sa vie qui va le dire. Et ici, le Seigneur, par la bouche de Paul, quand même, il nous dit que c'est vrai que parfois, c'est très difficile. Hein, il dit « s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. » Donc, il comprend le problème et il comprend la difficulté. Il rencontre la même. Hein, Jésus a rencontré la même difficulté durant son passage sur terre, son ministère parmi les hommes. Mais il insinue aussi que le plus souvent, eh bien, si la paix va régner, c'est qu'il y a un prix qui sera payé. Il y a un coût. La discorde est dans les moyens de tous, mais la paix se fait et se maintient à un prix. Et nous sommes appelés à rechercher la paix. Romains chapitre 14, verset 17 nous dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. » s'il faut réduire le principe, ce que c'est que la vie chrétienne, c'est pas le manger, le boire, mais il nous dit que c'est la justice, la joie et la paix. C'est tout simple, il dit soyez en paix avec tous les hommes. Il aurait pu dire ça. Et il aurait dit ah ben c'est beau, mais comment? Et alors, en fait, dans ces versets 17 à 21, il est en train de retourner le sujet dans tous les sens, de tous les angles, et pour nous aider, parce que c'est quand même quelque chose qui, pour des hommes pêcheurs, c'est un peu contre nature. Et en fait, ici, dans ce passage, il nous suggère des moyens de rétablir la paix entre les frères et avec le monde extérieur. Et une chose que je souligne, c'est que Dieu ne nous demande jamais de faire ce qu'il n'a pas fait lui-même. Hein, il ne nous demande pas d'établir la paix si lui n'a pas pris une initiative quelque part. Et lui l'a fait. C'est lui qui a fait la première démarche pour établir la paix entre les hommes et avec les hommes pécheurs. Hein, il nous dit qu'il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. C'est Dieu qui a pris la première initiative. Dans 2 Corinthiens 5, 19, on dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Et comment est-ce qu'il l'a fait? En n'imputant pas, c'est parce qu'il les a pris sur lui. Mais c'était le prix. C'était afin de pouvoir... Son désir, c'est de réconcilier les hommes à lui. Quelque chose s'était passé dans le jardin d'Éden. Il y avait une rupture qui s'est créée. Et Dieu veut rétablir ce qu'il y avait. Et chaque fois que Dieu rétablit quelque chose, il améliore. Ce sera encore ce que nous avons en Jésus-Christ et dans l'Église. C'est meilleur que ce qu'on aurait eu dans le jardin d'Éden. Mais il y a eu un coût. Il a payé. Il a payé le prix. Et le prix, c'était de cette réconciliation, c'était de le poids de notre péché qu'il a pris sur lui. Et ça lui a coûté le sacrifice de son fils bien-aimé. C'était pas un fils qu'il avait de trop. C'est le seul fils. Il nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il avait tout ce qu'il avait. Et il l'a donné pour avoir la paix, pas pour rétablir la paix avec nous. Colossiens chapitre 1, verset 20 nous dit, il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il fait la paix, mais par le sang de sa croix. C'est, nous venons de commémorer cela ce matin. Il a établi une nouvelle alliance. Une alliance, ça se signe quand on établit la paix. Quand on se met d'accord et on veut travailler ensemble. Mais Jésus a dit, mais c'est au prix de mon sang versé. Et nous ne voulons jamais l'oublier. L'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, lui rappelle que une des qualités de l'ancien ou du pasteur ou du responsable d'église, c'est d'être pacifique. Et il n'est pas dit qu'il est pacifiste. Un pacifiste, c'est quelqu'un qui veut pas la guerre, qui est tout ça. Un pacifique, c'est quelqu'un qui cherche la paix. C'est pas seulement il est contre, mais il veut établir quelque chose. Et il nous dit que le responsable dans une église, c'est un pacifique qui recherche la paix. Le responsable de l'église est un modèle aux autres, que les autres vont suivre, et qui doit être conduit par, il nous dit dans Jacques chapitre 3, verset 17, il nous dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, plein de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Hein, donc, si c'est vraiment la sagesse d'en haut qui anime un homme, eh bien, il va être, comme il le dit, pacifique, modéré, conciliant, plein de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Et si le Seigneur le demande des responsables d'Église, c'est que lui l'est déjà. Hein, bien sûr, entre parenthèses, pour qu'un responsable d'Église ait ses qualités, il faut qu'il les ait avant d'être choisi. C'est parce qu'il a déjà ses qualités qu'on lui confie la responsabilité. Hein, donc, ça veut dire que les gens qui ne sont pas des responsables peuvent l'être aussi. Hein, c'est du milieu de la communauté que nous trouvons nos responsables. Parfois, les chrétiens, au nom de la vérité, du désir de défendre la vérité, parfois, il y a des disputes et ils sont animés par cette jalousie de la vérité. Et alors, on fait ce que Jésus n'a jamais fait. Lui qui était la vérité, eh bien, il n'a pas créé des disputes sur la question. Il était la vérité. Il a parlé la vérité, il a enseigné la vérité, et il a laissé venir ceux qui désiraient la vérité venir à lui. Mais parfois, on a ce sentiment, les chrétiens ont ce sentiment qu'ils ont besoin de se battre pour le Seigneur, pour défendre la vérité. Ils disent, non, la vérité se défend toute seule. La vérité n'a pas besoin d'avocat. C'est que les coupables qui ont besoin d'avocats. Et donc, nous devons nous souvenir. Et l'exhortation qui nous est laissée dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est intéressant, il dit « Recherchez la paix et la sanctification. » Il ne dit pas « la paix ou la sanctification », mais les deux, la paix et la sanctification. Parce que certains prétendent rechercher la paix, parce qu'ils ne font rien, ils ne disent rien, ils laissent tout faire. C'est pas ça, rechercher la paix. Hein, ça, c'est tolérer le désordre. Il dit non, rechercher la paix, c'est s'intéresser à ceux qui causent le désordre, c'est s'intéresser à ceux qui souffrent de ce désordre, c'est d'honorer le Seigneur. Et la meilleure manière, c'est cette vie de sanctification, lorsqu'on devient chaque jour plus comme Christ. Vous savez, et dans un sens, la paix, elle se fait toute seule. Hein. Vous savez, le polissage des pierres ne se fait pas en cassant les autres, mais par la friction, une friction contrôlée, mais une friction, et qui a permis de polir toutes les pierres. Hein? Il n'y a jamais une pierre dans le tas qui est polie, mais ce sont toutes les pierres, au fur et à mesure, avec la friction. Et le Seigneur, il dit, recherchez la paix, travaillez à ce polissage. Bien sûr, il y aura des petites frictions, mais c'est pour rendre meilleur. Hein? Et donc, il dit, la paix avec la sanctification, et dit sans laquelle, eh bien, nous ne verrons pas le Seigneur. C'est ce qui nous prépare pour la rencontre du Seigneur. C'est le Seigneur nous reçoit à l'état brut dans l'Église et après il fait un travail. Hein, c'est extraordinaire. Les religions, ils nous disent, écoute, essaie d'améliorer ta vie au maximum, et puis quand tu deviendras bon, on t'introduit. Hein, on pourra te canoniser et toutes sortes de choses. Non, le Seigneur nous dit, je vous reçois à l'état brut, mais après, vous travaillez tous ensemble, en recherchant la paix, mais en permettant à l'Esprit de Dieu de contrôler cette situation de transformation et de sanctification. Et donc ce polissage mutuel qu'on appelle la sanctification, c'est lorsque nous parlons de cette vie chrétienne qui est dirigée par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Hein, et donc, et c'est là, et donc, oui, ne nous sommes tous à des stades différents de polissage, mais continuons à travailler ensemble et d'y rechercher la paix, mais en permettant à l'Esprit de Dieu de travailler dans l'un et dans l'autre, et nous allons avancer avec le Seigneur et à la gloire du Seigneur. Et il y aura cette transformation qui paraîtra inhabituelle aux autres, parce qu'il y aura une entente, un amour, dit la caractéristique des enfants de Dieu, c'est pas les heures qu'ils passent à prier. J'ai eu quelqu'un qui me disait, il dit, vous combien de fois vous priez, pensant que les chrétiens, nous prions uniquement le dimanche matin à l'église. Il dit, nous prions 5 fois tous les jours. C'est pas ça. Il dit, les chrétiens seront connus pour l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et le faux, il n'existe pas. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant pendant longtemps, en tous les cas. Vous avez déjà assisté à des mariages, et tout le monde se comporte bien, on essaie de ne pas dire de choses, tout ça, pour que ça se termine bien. Ou bien un enterrement, par respect pour la personne qui quitte, eh bien, on essaie de bien se comporter, mais ce n'est pas du vrai. Pendant un temps, pendant 1 heure, 2 heures, on peut le faire. Mais ce qui caractérise l'Église de Jésus-Christ, c'est que cet amour, eh bien, il est entretenu. Et malgré les défauts qui existent, donc cette exhortation de l'apôtre Paul, eh bien, même Pierre, il a dit la même, il nous donne la même exhortation, celle que nous avons lue dans tous ces versets là de ce chapitre 12. Il dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. 1 Pierre chapitre 3, les versets 8 à 9 et le verset 11. C'est ça, c'est le message pour nous. Et donc Paul ici dans ce passage, en fait, nous instruit comment rechercher la paix avec tous les hommes. C'est pas le fait de faire des congrès, le monde les fait, ils ont des rencontres, ils ont des colloques, ils ont toutes sortes de choses. On a des Nations Unies, on a toutes sortes de choses pour essayer, et la paix elle nous échappe constamment. C'est pas par ce moyen-là. Et vous remarquerez aussi dans ces versets-là, qu'il ne parle jamais de ce que l'autre doit faire. Il ne parle de ce que je dois faire. Ne dis pas, eh ben, la paix, tu peux l'avoir parce que, dès que lui... Parce que si on attend que les autres changent, eh bien, en fait, vous ne faites que retarder votre avancement, votre progression dans la foi. Si vous attendez que l'autre change. Il dit non, toi, prends-toi en charge, fais ce que tu as à faire, n'attends pas les autres. Il dit, il commence par dire, voilà, première chose, c'est au verset 17, il dit, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Première chose, premier principe, recherchez ce qui est bien parmi tous les hommes. Nous pourrions nous contenter de la première partie. Il nous dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Et vous savez, ça, on pourrait, les gens du monde peuvent le dire. Ah, mais moi, bon, je fais rien. Mais, et vous savez, souvent, et le plus souvent, ils ne rendent pas le mal pour le mal. Pourquoi ? Parce que, l'autre est le plus fort, ou bien parce qu'ils dépendent de l'autre pour la subsistance. Et donc, on supporte. Il dit pas, c'est pas ça, il dit, rechercher le bien de ceux qui nous font le mal. Et c'est là un cœur transformé qui est mis en évidence. Je me rappelle, là, tout d'un coup, je pense à un frère qui, en Algérie, qui avait reçu le Seigneur et son employeur était d'une autre religion. Et constamment, il était en train de lui donner lui, de tous ceux qui travaillaient là, il lui donnait toujours ce qu'il y avait de plus pénible. Il lui donnait tout, il faisait tout pour lui rendre la vie misérable. Et ce frère, par la grâce que Dieu lui donnait, eh bien, il acceptait, il faisait, il le faisait, il l'a fait pendant des semaines, des mois. Et c'est sûr que ce n'était pas toujours facile pour lui. Combien de fois il aurait eu envie de... Mais il l'a supporté. Jusqu'au jour, son employeur venait le voir et dit, écoute, dis-moi ce que tu as. Parle-moi de celui en qui tu crois. J'ai tout fait pour détruire et ça tient. C'est du vrai, je veux ça pour moi. Et son employeur est venu au Seigneur. Et c'est parce que il recherchait le bien de son employeur. Cherchez le bien de ceux qui vous font le mal. Matthieu chapitre 5, verset 9, donc dans les Béatitudes, hein, il nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ça, on peut les appeler les fils de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils se comportent comme Dieu le ferait, comme Jésus s'est comporté. Donc il dit premièrement, si vous allez rechercher la paix, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Au verset 19, il nous dit « Laissez agir la colère ». C'est sûr que, dans mon expérience en tous les cas, peut-être dans le vôtre, la colère, ça rarement établit la paix. En général, ça met fin à la paix. Hein. Et l'inconvénient de la colère, surtout quand c'est nous qui essayons d'exécuter la justice, c'est qu'on exagère. Hein. Et ça, on se met en colère à cause d'une injustice et on commet une injustice. Hein. C'est très difficile pour nous, en tant qu'humains, de ne pas aller trop loin. Mais l'enfant de Dieu vit par la foi. Hein. Il nous dit au début de Romains, il dit « le juste vivra par la foi ». C'est-à-dire qu'il a une confiance en Dieu, que Dieu peut intervenir, Dieu peut faire, Dieu peut agir. Et c'est dans ce contexte-là, vous regardez ici, au verset 19, il dit « laissez agir la colère ». Donc la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Il dit quelque part, je dis « Seigneur, je te remets cette situation. Moi je reste calme et je te laisse agir. J'ai confiance en toi. » Et vous savez, Dieu, il a promis, il a dit « C'est à moi la vengeance, je le ferai. » Mais vous savez, il ne le fait pas toujours comme nous le voudrions. Hein. Il ne fait pas toujours comme notre chair voudrait qu'on le fasse. Hein? Vous, jamais, mais d'autres, hein, quand ils veulent la vengeance, ils veulent que la personne soit humiliée, qu'elle soit détruite, et il lui arrive des choses terribles. Mais vous savez, parfois, Dieu nous venge en nous bénissant. Il me donne une bénédiction particulière. Et je ne sais même pas d'où ça vient. Pourquoi ? Il peut aussi faire, il peut nous venger en nous protégeant d'un mal dont on ne connaît pas l'origine. Hein, donc, comme ça ne nous arrive jamais, donc on ne le sait pas, il est inconscient. Mais parfois, le Seigneur nous venge en nous protégeant de quelque chose. Et parfois, il châtie la personne. Mais lorsque, par la foi, je lui fais confiance, eh bien, je le laisse agir, et c'est lui qui choisit. Il dit, Seigneur, tu veux le faire en me bénissant, tu veux le faire en me protégeant, tu veux le faire en intervenant dans sa vie pour lui apprendre une leçon, c'est à toi de voir. Mais Dieu nous dit, il faut toujours se souvenir que Dieu, il dit, moi, j'aime pas détruire les gens. Hein. Et c'est pour ça qu'il tolère tellement de gens, et de gens terribles, il les tolère parce qu'il se dit... Tant qu'ils vivent, eh bien, il se peut qu'ils se repentent. Et combien de gens terribles se sont repentis et sont devenus enfants de Dieu. L'un d'eux, c'est l'apôtre Paul. Hein. Pensez à l'histoire de Joseph. Dans l'Ancien Testament, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Joseph. Hein. Si vous la connaissez, c'est très bien. Si vous ne connaissez pas, lisez-la. Hein, dans les chapitres Genèse 42 jusqu'à 45. Mais quelque part, les frères, par jalousie, eh bien, ils ont vendu leurs frères. Dans l'esclavage, il est parti en Égypte et il a disparu. et plus de traces. Mais un jour, à cause d'une famine mondiale, eh bien, ses frères descendent en Égypte pour trouver des ravitaillements, pour survivre. Et, surprise des surprises, celui qui détient toute la nourriture, c'est le frère qu'ils ont vendu. Alors, à qui la vengeance? Et vous savez ce que Joseph va dire quand il va se révéler à ses frères, va leur dire qui il est? Alors là, ils ont commencé à trembler, hein, quelque chose de sérieux. Il dit, en fait, ce que vous avez fait, c'est Dieu qui voulait m'envoyer à l'avance, c'est pour nous sauver à tous la vie, toute la famille. Il dit, moi, je vois la main de Dieu. Et écoutez, ça fait 2 ans, il reste encore 5 ans, donc allez chercher papa et descendez tous avec vos enfants et vos épouses, et puis on va s'installer ici, Dieu a pourvu, alléluia, gloire à Dieu. Parler d'une vengeance? Ben oui, 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 c'est une vengeance, hein, ces hommes-là. Ils avaient, pendant un moment, mais Dieu, en fait, s'est servi pour les sauver. Et toute l'histoire, tout ce qu'on lit dans la suite de la Bible, ça aurait été très différent si Dieu avait vengé Joseph comme les hommes pensent à la vengeance. Mais là, il était préservé, et en même temps, ils ont pris une bonne leçon. Et en plus, entre deux, eh bien, Joseph était cet homme puissant qui a pu sauver la vie de tous. Vous savez, Dieu a vengé Joseph et préservé les frères. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Ça, c'est pas un Dieu que le monde invente. Ça, c'est un Dieu de la Bible, c'est celui que j'aime. Et je suis prêt à me confier à un Dieu pareil. Il dit, laisse agir la colère. T'en fais pas, ça terminera bien pour toi. Et Dieu agira, qu'il agisse avec grâce, qu'il agisse, peu importe comment il laisse agir la colère. Laisse agir la colère de Dieu. Il sait comment l'utiliser. Il dit, donc, recherche le bien devant tous les hommes. 2, laisse agir la colère, c'est-à-dire laisse Dieu agir, confie-lui la situation. Et troisièmement, au verset 20, il nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et là, Paul est en train de citer carrément les proverbes de Salomon. Hein. Et je vais vous lire exactement ce que ça dit dans les proverbes. C'est Proverbes chapitre 25, les versets 21 et 22. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Cette partie-là, il n'a pas cité ici. Mais dans le proverbe, Salomon dit, et l'Éternel te récompensera. Il dit, et alors, tu lui donnes, tu lui rends le bien, tu lui donnes du pain à ton ennemi, qui a faim, et tu donnes de l'eau fraîche à ton ennemi qui a soif, et alors tout d'un coup, c'est la confusion de la face, hein, il ne sait pas quoi faire, mais quel plaisir tu en tires. Hein. Et alors, il est tout confus, il ne sait pas quoi dire, tout ça, et ça t'amuse en quoi? Mais il te dit, quand tu le fais, parce que Dieu te récompensera. Ah, là, c'est quelque chose d'agréable à recevoir. Dieu te récompensera. Et là aussi, Dieu sait récompenser et il le fait à sa manière et c'est toujours extraordinaire. Mais il dit, écoute, rends le bien pour le mal et le Seigneur fera justice, il te récompensera. C'est un acte de foi aussi, hein. Le juste vivra par la foi. C'est un acte de la foi, Dieu. Moi, je fais ce que tu as fait. Jésus, les mains qui ont touché le malade pour le guérir, qui ont touché les yeux de l'aveugle pour lui rendre la vue, qui ont touché le cadavre pour faire que ce jeune homme unique, fils unique, se lève dans son cercueil, Eh bien, ce sont les mains que les hommes ont clouées sur une croix. Et Dieu aurait pu dire, mais avec ça, eh bien, c'est terminé pour les êtres humains. C'est comme ça qu'il traite mon fils, c'est cuit. Non, il dit, non, en fait, je me sers de ça pour leur dire combien je les aime. Et celui qui l'accepte, c'est celui qui reçoit. Hein, vous l'avez fait, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Mais dire, Dieu, ton amour est irrésistible. Je n'ai rien trouvé de pareil dans ce monde. Tu fais le bien, on te rend le mal, et tu pardonnes, et tu récompenses, et tu prépares une place dans la gloire, et la mort, qui est notre pire ennemi sur terre, eh bien, tu en fais une porte de passage pour aller vers des choses meilleures. J'ai dit Dieu, je comprends que c'est à cause de la croix, c'est parce que Christ est mort sur la croix que tu peux m'offrir cela. Et j'en suis pas digne, mais je le reçois puisque tu l'offres. Je le reçois, je te crois, je place ma vie entre tes mains. Et vous savez, avec cela, vous rentrez et vous jouissez. Et finalement, la colère de Dieu est annulée et tout d'un coup, ça devient de la miséricorde. Laissez agir la colère de Dieu. Parce que lui, pour un rien, pour un pécheur repentant, sa colère devient de la grâce. Et il l'a fait combien de fois? Et nous en sommes témoins. Il dit, tu veux rechercher la paix? Eh bien, recherche ce qui est bien devant tous les hommes. Laisse agir la colère de Dieu. Parce qu'il le salut est possible dans la colère de Dieu, mais pas dans la colère des hommes. Et puis, rend le bien pour le mal. Et puis, au verset 21, alors il termine, il dit, surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Je lis tout le verset, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte. Quand on entend les mots « vaincre » et « surmonte », eh bien, on a l'impression qu'il y a un combat. Et c'est vrai, il y a un combat entre le bien et le mal. Dans le monde, mais en nous aussi. Et on a cette impression que, et puis ça se confirme dans notre vie de tous les jours, que le mal veut prendre le dessus et s'imposer. Et quand il le peut, dès qu'il trouve l'occasion, il essaye de le faire. Il le fait. Ce que j'aime bien dans ce verset, c'est que tout est au présent. Ça veut dire que c'est quelque chose qui reste vrai. C'est continuel, c'est toujours vrai, tous les jours. Ce n'était pas vrai à un certain moment, ça reste vrai. Ce combat est là, entre le bien et le mal. Et dit, le combat, il se fait, ce qui est autour de toi, peut-être tu ne le contrôles pas complètement, mais ce qui se passe en toi, tu peux le faire. Et dit, la meilleure manière de combattre le mal, c'est de le surmonter avec le bien. Tu veux chasser les ténèbres parce que ça te gêne? Eh bien, allume la lumière. C'est pas la peine de maudire les ténèbres. Mais allume la lumière. Et dit, le mal, c'est pareil. Quand le bien est là, le mal s'atténue. Si Paul nous dit de surmonter le mal par le bien, c'est que c'est possible pour l'enfant de Dieu. S'il pratique ce qu'on a déjà énoncé. Et Dieu peut nous donner la victoire. Et on peut avoir un comportement qui n'est peut-être pas normal, au vu de ce qui se passe tous les jours. Ces derniers temps, j'ai eu un petit truc là dans mon téléphone où il te donne des informations au fur et à mesure que ça arrive. Des choses qui arrivent partout en France, tout d'un coup on les ressent. Wow, c'est terrible ce qui se passe en France. Je crois que je vais l'arrêter, parce que c'est fou. Mais c'est la réalité. Mais, surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre. Que ce ne soit pas le mal qui décide de comment tu vas te comporter, que ce ne soit pas le mal qui décide comment tu vas parler, ce n'est pas le mal qui va décider comment tu vas te rétracter. Non, que ce soit le bien que le Seigneur met en toi qui dicte ta vie, tes paroles, ton comportement, tes réactions. Celui qui cherche le bien de tous n'oublie personne. De fais confiance à Dieu pour rétablir la justice et t'accorder ton droit. Fais-lui confiance. Le juste vivra par la foi. Et troisièmement, rends le bien pour le mal. Et par ces moyens-là, tu démontreras que tu recherches la paix, autant que c'est possible. C'est ce qu'on peut appeler, comme il dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, il dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » La bonne nouvelle que nous avons dans la Bible, c'est, ça n'a qu'une direction, la paix. La paix entre l'homme et Dieu, la paix entre les hommes, entre eux. C'est ça le message. Il dit, écoute, chausse les chaussures de l'évangile de paix. Que ce soit caractéristique. Hein, que sont beaux les pieds de ceux qui portent l'évangile, il nous dit dans Romains 10. Bon, que ce soit pas quelque chose que nous avons dans le portefeuille, hein, mais c'est quelque chose que nous chaussons. C'est la vie de tous les jours. La bonne nouvelle de Dieu apporte la paix avec Dieu et avec les hommes. Je termine avec ce passage de 2 Corinthiens 13, verset 11. Il dit, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Prions.